Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
If I'm gonna eat the food, it must be organic. I do not like processed food and I'm going to ban it.
Bonjour à tous, menu bio aujourd'hui dans Accent d'Europe. L'agriculture biologique peut-elle répondre sainement à une demande toujours croissante? Assiste-t-on à une concurrence entre labels, entre pays producteurs? Pour nous guider aujourd'hui, nous recevons Claude Gruffat, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été PDG de Biocoop, la première enseigne de produits bio en France, la plus ancienne aussi. Un poste auquel vous avez renoncé pour vous présenter aux élections européennes sur la liste Europe Écologie Les Verts. Vous êtes élu, mais en suspens, si je puis dire, puisque l'existence de votre siège dépend du Brexit et du départ des Britanniques. On aura peut-être l'occasion d'en dire un mot à la fin de cette émission. Mais Claude Gruffat, parlons tout de suite du marché bio, un marché en pleine croissance en Europe.
C'est un marché qui est effectivement en pleine croissance depuis maintenant bientôt une quinzaine d'années en fait, hein, qui a cru progressivement et là ça s'accélère, c'est-à-dire qu'on assiste maintenant à un véritable engouement des produits bio, d'une alimentation bio pour les citoyennes et les citoyens de France et d'Europe. Hein. C'est vrai que ce phénomène que je connais mieux en France bien sûr pour avoir été plus acteur en France, mais qui est le même en Europe du Nord. L'Europe du Sud est peut-être un petit pas de décalage avec l'Europe du Nord sur la consommation et le fait que les gens prennent vraiment ce mode alimentaire nouveau comme un mode alimentaire en progression.
En revanche, c'est l'Europe du Sud qui exporte.
En Europe, par contre, c'est l'Europe du Sud qui produit et qui exporte ses produits bio vers l'Europe du Nord, clairement. On a vu des années où l'Italie, l'Espagne étaient capables de passer en reconversion plus de 200-250 000 hectares de surface agricole en bio, alors que la France, à la même période, n'en faisait que 20 000 ou 25 000. Mais par contre, c'était pas consommé sur place, c'est vraiment des produits qui sont exportés vers l'Europe du Nord, bien sûr.
C'est facile aujourd'hui pour un agriculteur européen de passer au bio. Est-ce que la PAC, en clair, est assez verte, la politique agricole commune?
Alors la PAC n'est pas verte du tout, selon moi. La PAC est aujourd'hui continue de subventionner l'agriculture conventionnelle, intensive, productiviste, qui utilise la chimie, les engrais chimiques, les pesticides, etc. Et la PAC est toujours orientée vers ça, jusqu'à la fin de cette PAC-là, en tout cas, qui va se changer de ton, j'espère, puisque la mandature à venir en Europe va porter le changement et l'évolution de la prochaine PAC, donc des prochaines années de la PAC.
En 2021.
Et ça va démarrer en 2021, donc ça va se négocier en 2020, voilà.
Alors c'est un marché qui s'adresse essentiellement à une clientèle riche, ce sont les Français, les Allemands, les Britanniques qui sont les premiers consommateurs. Je vous propose d'écouter notre correspondante à Berlin. L'an dernier, les Allemands ont dépensé 10,91 milliards d'euros en alimentaire bio, 5,5% de plus que l'année précédente. Et le bio se vend aussi dans les grandes chaînes de discount que sont Aldi et Lidl. Est-ce pour autant du bio au rabais? Écoutez ce que nous en dit Déborah Berlioz.
Cela fait bien longtemps que le bio a conquis les rayons de Lidl et compagnie. Avec 15% des parts de marché, Aldi est même le plus gros vendeur de produits issus de l'agriculture biologique en Allemagne. Alors certes, on pourrait se dire qu'ils aident à démocratiser le bio, qu'ils le rendent accessible à tous, ce qui est louable. Cependant, l'arrivée du bio chez les discounters a largement accentué la concurrence sur les prix et donc la pression sur les agriculteurs. Poussés à plus de rentabilité, certains rognent sur la qualité. C'est ainsi que différents scandales ont touché la branche. En septembre dernier, l'association Animal Rights Watch a diffusé des images choquantes d'un élevage bio de poules pondeuses. Les animaux y apparaissent entassés les uns sur les autres, sales, déplumés, blessés. On aperçoit même un animal mort. Rien de bien appétissant. En tout, 40 000 poules seraient réunies dans cette ferme. Pourtant, le label européen interdit d'avoir plus de 3 000 bêtes dans un poulailler. Un problème que l'exploitant a résolu en installant de simples cloisons dans son grand hangar. Par ailleurs, les agriculteurs allemands ne produisent pas assez pour satisfaire l'appétit grandissant de leurs compatriotes pour les produits bio. 95% des poivrons bio vendus en Allemagne viennent donc de l'étranger. Cette proportion est de 88% pour les tomates et de 69% pour les courgettes. Beaucoup de ces légumes sont produits dans des serres espagnoles, dans la fameuse mer de plastique d'Almeria. Et ces cultures, très gourmandes en eau, sont un désastre pour l'environnement. Sans parler des conditions de travail souvent scandaleuses des ouvriers agricoles sur place. La démocratisation du bio n'a donc pas que des avantages, loin de là, mais le gouvernement fédéral se penche sur la question. Son objectif est de faire passer la part des terres agricoles cultivées en bio à 20% d'ici à 2030. Pour l'instant, cette part dépasse à peine les 9%.
Claude Gruffat, le marché du bio est-il aujourd'hui victime de son succès? En gros, y a-t-il un mauvais bio?
Quand l'agriculture conventionnelle veut se convertir à la bio rapidement sans remettre en cause ses investissements, c'est un gros problème. Dans le reportage, on entend parler des bâtiments d'élevage. Effectivement, si les éleveurs qui ont des bâtiments de 10 000 m2, 20 000 m2, qui coupent en pièces et qui les passent en bio... Non, ça suffit pas pour faire réellement de la bio. Parce que, pourquoi? Parce qu'un bâtiment d'élevage, pour que les volailles à l'intérieur sortent dehors sur les parcours, il faut que le bâtiment ne fasse pas plus de 15 mètres de large. Les bâtiments dont il est question là, ils font 30 mètres de large. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les animaux qui sont au milieu du bâtiment, quand on ouvre les trappes le matin pour les faire sortir, ils ne vont pas aux trappes, ils sont trop loin. Et donc, ils sortent pas. Donc, ils sont labellisés bio, mais ils sont jamais sortis sur les parcours. Oui, ça, c'est un problème. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre des techniques qui sont adaptées à la production bio pour faire une bio de qualité et une bio qui ne trompe pas le consommateur.
Oui, et la bonne bio, puisque vous distinguez la bio éthique, je dirais, en deux mots séparés, et puis le bio industriel. Et pour faire du vrai bon bio, il faut respecter les sols, il faut respecter les bêtes, il faut respecter aussi l'humain.
L'humain qui travaille sur les fermes, c'est pour ça que en France, on est encore dans un modèle d'agriculture biologique où les fermes sont à taille humaine. On veut pas de fermes des 1000 vaches en bio. On veut pas des fermes de 200, 300 vaches laitières en bio, en tout cas menées par un seul éleveur. Après, si c'est des éleveurs qui se rassemblent ensemble, c'est différent. Parce que par éleveur, on a un nombre d'animaux qui sont raisonnables, qu'on peut gérer, et pour les éleveurs, que ce soit humainement supportable. Parce que quand vous avez 120 vaches laitières à gérer tout seul, vous imaginez ce que ça représente.
Oui, et puis comme le disait Déborah Berlioz, il y a aussi le problème de ces travailleurs migrants non déclarés dans ces grandes fermes, entre guillemets, bio du sud de l'Espagne.
Almeria, au sud de l'Espagne, c'est vrai que c'est le cas, et ça, c'est pas acceptable. On peut pas accepter d'avoir des produits bio qui arrivent dans l'assiette du consommateur chez nous, alors que ceux qui l'ont produit ne sont pas payés ou payés moins de 2 euros par jour, et qui vivent dans des conditions qui sont absolument inacceptables. Donc, la bio, justement, elle est non seulement conforme à un cahier des charges rigoureux, mais en plus, sur un plan social responsable, sur un plan environnemental responsable. Une grande cohérence.
Est-ce que le consommateur européen doit craindre des fraudes, du bio qui ne serait même pas bio en termes d'intrants, d'engrais, de pesticides?
Ça non, parce que la certification en bio est très contrôlée. Les organismes de contrôle de chaque pays se réunissent à l'échelon européen pour confronter leurs résultats, confronter les volumes produits, etc. Et on peut pas avoir des volumes qui passent en bio sans qu'on s'en aperçoive. Ça a été le cas il y a 25 ans, ça n'est plus le cas aujourd'hui.
Vous avez fait campagne en mai dernier pour les élections européennes. L'Europe qui a créé il y a une dizaine d'années son label bio, hein, la fameuse petite feuille verte. Alors, le label est-il suffisant? En tout cas, il coexiste avec bon nombre de labels nationaux. En Belgique, par exemple, les agriculteurs bio vont lancer leur label bio garantie Made in Belgium. Alice Debatty de la RTBF est allée demander à un producteur de pommes et poires pourquoi il fallait d'autres garanties. On écoute son reportage.
La période de la cueillette a commencé dans l'exploitation de Pierre-Marie Laduron. 5 employés décrochent délicatement des arbres de grandes pommes rouges dans les allées du verger.
C'est le moment de les cueillir. D'ailleurs, si on en prend une, la deuxième va tomber. Elles ne tiennent plus.
Pierre-Marie fait du bio depuis 17 ans. Il n'utilise pas de pesticides, cueille les fruits quand ils sont mûrs et sa production évolue au gré des saisons.
On a de temps en temps des espaces un peu moins sexy, comme on dit nous. Vous voyez, voilà, des feuilles plus claires, plus parsemées. La production directement, elle sort sans, c'est pas les mêmes. Voilà, il y a quasiment rien sur ces arbres. C'est aussi ça l'univers du bio.
Pierre-Marie Laduron est fier du fruit de son travail. La preuve, il le croque volontiers à pleines dents.
Je prends le plus petit, alors je fais ça.
Vous frottez sur votre pull.
Et...
on mord dedans.
Ben oui, c'est ça le plaisir.
Bon. Les pommes de cet agriculteur portent depuis 2002 le label bio européen. Le logo à la feuille verte a été créé pour guider les consommateurs, les aider à reconnaître plus facilement les produits bio issus des États membres. Un socle commun utile pour cet agriculteur, mais insuffisant. Selon lui, certains fondamentaux manquent au label européen.
L'Europe, malheureusement, n'avance pas. C'est sans pesticides et saletés, ça c'est certain. Mais il y a des discordances au niveau, par exemple, social, salarial. Il y a des discordances, par exemple, utilisation d'huile essentielle, certains pays ou pas. Nous sommes en Europe, un des trois pays les plus restrictifs en Belgique. Et on peut en être fiers, franchement.
Et c'est pour cette raison que Pierre-Marie Laduron a décidé de prendre part au label bio-garantie Made in Belgium. La présence de labels nationaux sur les produits bio est optionnelle, mais les États membres sont de plus en plus nombreux à essayer de se démarquer.
On veut avoir quelque chose qui nous distingue, puisque les Néerlandais gardent leur éco, les Allemands gardent leur oco, pourquoi nous on ne garderait pas notre bio-garantie ?
Le cahier des charges de bio-garantie Made in Belgium va au-delà des exigences requises par la législation européenne et met en évidence le caractère local du produit, sa traçabilité et un prix juste. Dominique Jacques est président de l'Union nationale des agrobiologistes belges.
Moi, je prends l'exemple des salaisons. Il n'y a pas de sel nitrite en bio-garantie. Donc voilà, sur un exemple aussi sur tout ce qui est déchets. Donc il y a une réflexion aussi sur les utilisations. Je ne vais pas dire déchets, c'est les emballages, les différentes choses. Voilà, et il faut savoir qu'on a des choses beaucoup plus strictes et on risque de venir dans un système de label bio-garantie belge plus strict.
Un label plus strict pour protéger un savoir-faire et une philosophie durable de la terre.
Pour l'instant, l'industrie prend le dessus. Et ça, ça ne peut pas. Et c'est pour ça qu'on veut le faire autrement. C'est les agriculteurs qui doivent garder la main sur le bio.
Cela fera donc encore une étiquette de plus pour les fruits de Pierre-Marie. Des informations complémentaires pour guider les consommateurs dans la jungle du bio européen.
On passe l'alimentation bio à la loupe aujourd'hui dans Accent d'Europe avec notre invité Claude Gruffa, futur eurodéputé en cas de Brexit sur la liste d'Europe Écologie Les Verts. Claude Gruffa, il est suffisamment contraignant ce label européen ?
Il est relativement contraignant sur la partie technique de production, que ce soit dans la production, dans la transformation, etc. des produits. Il n'est pas assez exigeant sur la partie sociale et environnementale. C'est vrai que c'est important de le dire. C'est pour ça qu'il y a des cahiers des charges qui émergent dans les pays pour mettre cette cohérence supplémentaire. En France, il y en a un qui est né il y a une douzaine d'années maintenant, c'est Biocohérence. C'est un cahier des charges qui justement prend en compte cette globalité et cette cohérence d'une démarche qui n'est pas que de la technique au champ ou dans les laboratoires de fabrication de produits agroalimentaires, mais qui va bien au-delà de ça avec une cohérence environnementale. Un produit qui est importé d'Égypte, dont les matières premières sont importées d'Égypte, transformées en France, et qu'on dit que c'est un produit d'origine France, ça ne va pas. Il faut vraiment que les matières premières... Donc là, il y a toute la notion aussi de filière, de construction de filière, le plus local possible. Biogarantie, il l'a très bien décrit dans le reportage. On l'a aussi en France dans des démarches, notamment chez Biocop, parce que ça fait plus de 30 ans qu'on travaille là-dessus, pour arriver à construire cette cohérence d'une démarche pour que, aux consommateurs, les choses soient les plus sincères et les plus cohérentes possibles sur la qualité du produit, sur un plan qualité du produit, sur un plan social et sur un plan environnemental.
On l'a vu dans ce reportage, il y a une floraison de labels nationaux. Est-ce qu'il y a une concurrence entre pays européens ? C'est intéressant. L'affaire des serres chauffées en France, on voit que la France n'ose pas interdire les serres chauffées pour la culture des légumes bio parce que d'autres pays européens le font.
Alors la France ne souhaite pas, les producteurs bio en France ne souhaitent pas rentrer dans la démarche des serres chauffées pour ne pas arriver à quand on parle de la saisonnalité des fruits, des légumes, etc. Dès qu'on chauffe les serres, après la bagarre, c'est sûr à partir de quand on peut avoir des tomates à commercialiser, etc. Est-ce que c'est à partir du mois de mars, à partir du 15 février, alors que normalement c'est pas avant fin avril, début mai qu'on a des tomates normalement dans nos pays. Sous serre froide, notamment. Donc là, il y a une concurrence, oui, qui peut s'installer, effectivement, si on n'arrive pas à mieux s'organiser en Europe sur ces questions-là. Et quand on parle de la question des serres chauffées, il faut aussi la poser à l'échelon de chaque pays, parce que la saisonnalité des légumes, on va dire au Danemark ou en Grèce, tout le monde comprend rapidement qu'on ne parle pas du tout de la même chose. Et donc c'est ça qu'il faut aussi arriver à poser dans le paysage pour mettre en place une harmonisation et après en tenir compte dans les échanges. C'est-à-dire que pas parce que cette saison en Grèce que cette saison en France, donc il ne faut pas importer ces produits-là. Donc il y a toute une démarche. Et là, ça va chercher quoi? Ça va chercher la cohérence des enseignes qui mettent en marché, évidemment. C'est-à-dire que là, c'est plus du comportement de l'enseigne qui respecte la saisonnalité réellement par rapport à ce qu'elle est naturellement et qui ne va pas chercher les produits quand c'est pas le moment.
Après, on le voit bien, produire du bio, c'est compliqué, notamment lorsque les sols sont contaminés. Et beaucoup de sols sont contaminés avec l'usage des pesticides. L'Europe a du mal à harmoniser et à prendre les devants sur la question des pesticides et l'interdiction des pesticides.
Ah, mais là, on est face à des lobbies qui sont tellement forts et tellement puissants que c'est remettre en question toute une économie européenne et mondiale, hein, parce que quand on parle des pesticides, on est dans une économie largement mondialisée, pour l'arrêter. En tout cas, nous, ici, en Europe, on veut l'arrêter. Je crois qu'il faudrait que ce soit pareil dans tous les pays du monde, d'ailleurs, pour arriver à passer à autre chose, parce que l'empoisonnement de l'environnement, de la santé des animaux et des humains, aujourd'hui, a atteint un stade tel qu'il est urgent, urgent, urgent d'arrêter ce modèle d'agriculture-là et de passer à autre chose, sachant évidemment qu'on ne le fera pas du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il faudra accompagner cette mutation.
Il y a une pétition européenne qui circule pour interdire les pesticides de synthèse. D'ici 15 ans, le changement viendra de la part des citoyens. Ce sont eux qui peuvent faire avancer les choses.
Clairement, comme c'est eux qui ont fait avancer la bio depuis 40 ans, c'est bien les gens, les citoyennes et les citoyens qui font des prises de conscience et qui se rendent compte que, dans son assiette, au quotidien, quand on consomme différemment, on fait vraiment changer les choses. En fait, ils savent qu'ils votent 3 fois par jour avec leur mode de consommation. Leur bulletin de vote, c'est leur assiette.
Le pesticide bio, on le sait, ça existe. Hein, on parlait des pesticides de synthèse. Il y a ces pesticides bio, notamment le cuivre. Là encore, on voit que d'un pays à l'autre, les législations sont complètement différentes. Au Danemark, je crois, par exemple, le cuivre est interdit.
Oui. Alors après, il ne faut pas mélanger pesticides de synthèse, qui sont des produits systémiques, c'est-à-dire qui rentrent dans la plante, des produits de contact, comme vous citez le cuivre, le soufre, etc., qui restent à l'extérieur de la plante. Alors, ils ont l'inconvénient d'être phytotoxiques pour le sol, si on en met trop. Mais là, les producteurs ont appris à mieux maîtriser ces produits et à en utiliser beaucoup, beaucoup moins. Moi, je me souviens, il y a 30 ans et plus, on mettait 20 kilos de cuivre à l'hectare. Maintenant, on est tombé en dessous de 4. Donc, on n'est plus du tout dans la même façon de faire. Alors, je sais qu'il y en a qui cherchent à amalgamer pesticides bio et pesticides chimiques. Faut quand même faire la part des choses. On n'est pas du tout dans le même monde.
Oui, deux pesticides, deux pratiques différentes, mais on voit bien quand même qu'il y a, là encore, je dirais, des pays qui sont plus éthiques que d'autres.
Ah ben c'est vrai que quand vous parlez avec l'Europe du Nord du vignoble, et qui savent comment on traite le vignoble en France, ou les arbres, hein, parce que c'est utilisé principalement sur ces deux cultures-là, hein, le cuivre un peu autrement, ils nous disent « mais la France, vous n'êtes pas un pays de vin, il y a beaucoup trop de maladies sur la vigne, il faut réserver ça aux pays qui sont encore plus au sud, où il fait sec et où on ne traite pas ». Alors là, aller dire à des Français que la France n'est pas un pays de vin, bon courage.
Claude Gruffa, c'est rentable aujourd'hui pour un agriculteur de passer au bio ?
Ah ben aujourd'hui, clairement, c'est rentable. La démonstration a été faite. Tous les producteurs que j'ai eu l'occasion de rencontrer, Dieu sait si j'en ai rencontré, qui ont fait la démarche de passer en bio, ils ne reviendront pas en arrière. C'est plus rentable économiquement, c'est plus rentable en bonheur de vie, de métier de paysan sur la terre, parce que on a au moins sa conscience de faire une agriculture qui est plus vertueuse, et ça procure une véritable satisfaction, parce que tous ceux qui utilisent des pesticides, ils savent bien ce que ça produit, etc. Et c'est parce qu'ils ont encore pas eu l'occasion de changer de méthode pour passer à autre chose qu'ils restent dans la chimie. Mais ceux qui sont passés au bio, non, ils le regrettent pas.
Mais on entend souvent que c'est un marché de niche qui finalement ne pourrait pas nourrir les Européens ni nourrir la planète.
Alors ça, c'est les Occidentaux qui, sur leurs 8% de surface cultivable du monde, pensent qu'ils vont, avec une agriculture intensive, nourrir le monde. C'est stupide et aberrant, c'est comme vision. Juste si on prend quelques éléments. Aujourd'hui, l'agriculture dans le monde, c'est 30 millions de paysans avec le tracteur et la chimie, 300 millions de paysans avec le cheval et le fumier, 1 milliard 200 millions avec la houe. Si ceux-là augmentent leur rendement avec la gestion de la matière organique et le compost, et on a fait des tests des centaines de fois par rapport à ça, on produit un volume supplémentaire sur la planète qui dépasse la faim dans le monde, c'est-à-dire les 3 milliards de quintaux dont on a besoin en plus pour nourrir tout le monde.
Merci beaucoup Claude Gruffa sur Accent d'Europe. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur le site de RFI à la rubrique podcast. À demain.